l'univers. À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
E-U-C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Oui, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
Planète, galaxie, astre, lointain, infini. Quelques mots qui suffisent à nous faire perdre l'équilibre et à nous sentir tout petits d'ici. Épisode 1.
Olivier Lefebvre.
Je suis Olivier Lefebvre, je suis astronome. Je suis le co-responsable scientifique de la mission au niveau français. C'est moi un peu qui suis le garant de l'engagement français dans la mission et du retour sur investissement qui va avoir lieu quand la mission sera en train d'être exploitée. Moi, j'ai un passé qui est l'explorateur. J'explore l'univers et j'explore les continents dans l'univers et puis j'en fais la cartographie. Quand on fait ce type de job, on est un peu comme Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. On commence à faire des cartes qui sont très peu précises, et puis au fur et à mesure des explorations, les cartes se raffinent, et puis on essaye de comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a formé une galaxie comme notre Voie lactée ? Il y a plusieurs milliards d'étoiles dans une galaxie, et il y a plusieurs milliards de galaxies dans l'univers. Première grosse énigme, 25% de matière noire. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il reste, si vous faites le compte, 70%. Et ces 70%, en fait, ça correspond à ce qu'on a appelé de l'énergie qui accélère l'expansion de l'univers. On essaye de comprendre comment on en est arrivé là, quelle est l'origine de tout ça. Et donc, ça fait déjà un moment maintenant qu'on a la fameuse théorie du Big Bang, avec l'univers qui est né à un moment d'une singularité, hein, tout était dans rien, et puis boum, à un moment, ça explose, le temps commence à se dérouler, et puis il y a toute une évolution qui se fait, et donc on essaye de comprendre comment se fait cette évolution. Si on prend l'univers tout entier, il faut être très humble, on a identifié seulement 5% de sa composition masse-énergie, on va dire. Et il y a 95% d'inconnus. Les 5%, c'est tout ce qu'on observe assez facilement, donc les étoiles, le gaz, les planètes, les galaxies qui contiennent les étoiles, du gaz. Donc tout ça, ça fait 5% seulement. « cette matière. Ça pèse 25% du total de l'univers, et on ne sait absolument pas ce que c'est. Non seulement l'univers est en expansion, ça on le sait depuis les théories post-Einstein, où il y a eu des observations qui ont montré qu'il y a une expansion globale de l'univers, mais là, la surprise, c'est que cette expansion, elle est accélérée. Aujourd'hui, c'est la plus grosse énigme de la physique. Hein. C'est vraiment ce qui mobilise beaucoup, beaucoup de chercheurs, parce que on est devant une inconnue majeure. Quoi. Donc, on essaye de comprendre. On essaye de connecter à la fois les modèles théoriques qui représentent l'univers avec les observations, et on essaye de confronter la théorie d'un côté avec l'observation de l'autre. Donc moi, je suis du côté observation, j'amène les preuves de ce qui existe réellement, et puis à charge de mes collègues théoriciens de s'assurer que leur théorie soit bien conforme aux observations. De regarder l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, souvent je commence par ça quand je donne des cours à mes étudiants en M2. Je leur dis, les Grecs, ils avaient une représentation de l'univers avec une Terre qui était plate, posée sur les piliers d'Hercule, et puis il y avait la sphère céleste, ils ne savaient pas trop ce que c'était, avec l'éther, il y avait des concepts qui correspondaient à leur vision, il y avait des faits pour eux, il y avait une connaissance limitée, la cartographie n'était pas très... ils n'allaient pas plus loin que le détroit de Gibraltar, et donc c'était là où il y avait les piliers d'Hercule. Au fur et à mesure, il y a eu Copernic avec le Soleil au centre de l'univers, et puis on s'est rendu compte que le Soleil, c'était pas forcément le centre de l'univers. Donc la représentation cosmologique, elle a beaucoup évolué. Si on regarde sur 100 ans, ça a évolué énormément. On est parti de théorie newtonienne, donc une représentation à trois dimensions de l'univers, à une représentation de la relativité générale où on a en plus le temps. Donc quatre dimensions, trois dimensions d'espace et une dimension de temps, avec une singularité au départ. Il se peut très bien qu'on soit au seuil d'un nouveau paradigme où on ait besoin de faire le même saut qui a été fait entre Newton et Einstein. On a besoin d'aller inventer, formuler une nouvelle description de l'univers basée sur des lois qu'on aura besoin de revalider ou de reformuler. C'est toute la base de notre connaissance qui est impactée, qui peut être impactée, et qui, à terme, peut avoir des conséquences sur simplement notre façon de vivre. Un GPS, aujourd'hui, s'il n'y avait pas la théorie de la relativité, ça ne marcherait pas. Les calculs qui sont faits pour vous positionner au mètre près, ou voire au centimètre près pour les militaires, c'est basé sur les calculs qui incluent les équations de la relativité générale d'Einstein. Quand Einstein a formulé sa théorie, il n'a jamais imaginé que ça pouvait avoir des applications pratiques au niveau de la vie de tous les jours des gens, quoi.
Thank you.
pour aller comprendre l'univers et confronter l'observation aux théories, bah, il faut observer. Et pour observer, il faut développer de l'instrumentation qui va aller faire des mesures. Quand on fait de la chimie, on va sur la paillasse. Nous, on n'a pas amené les étoiles ou les galaxies sur notre paillasse. Donc, y a des formalismes d'aller observer. Et pour observer, il faut des télescopes. Et derrière les télescopes, il faut des instruments qui vont capturer les photons, les analyser, et puis nous donner un certain nombre d'informations clés sur les objets observés, qui vont nous permettre d'améliorer nos mesures et donc d'améliorer la connaissance de l'univers, tout simplement, quoi. Quand on regarde le ciel, on est familier avec la cartographie terrestre, mais il y a une cartographie céleste. Donc on peut repérer les étoiles, les galaxies sur leur position sur la sphère céleste. Mais il y a aussi une troisième dimension qui est la distance. Et donc il faut pouvoir mesurer aussi bien la position que la distance. Et donc pour faire ça, on a besoin d'avoir des télescopes qui couvrent un très grand volume d'univers, parce qu'on veut, observer autant que possible tout l'univers. Ça serait l'idéal de pouvoir observer tout l'univers. Mais il y a des limitations, parce que tout l'univers, ça veut dire qu'il y a des objets à la fois très brillants et très faibles, luminosité, et les objets qui sont très faible luminosité, ils sont noyés dans la masse un peu, hein. On n'arrive pas à les observer facilement. Jusqu'à présent, on a observé des zones du ciel qui représentent un 50 000e de la sphère céleste, à des distances de nous qui sont intéressantes pour résoudre la question de l'énergie noire. 1/50 000e du ciel a été observé. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est observer, quasiment, on va passer à la moitié de la sphère céleste qui va être observée, donc à ces distances. Donc vous voyez, le saut quantitatif d'observation, hein, c'est de passer à 1/50 000e à un demi ou un tiers de la sphère céleste. L'univers est en expansion. Il y a le temps cosmique, il y a l'horloge qui fait tic-tac au fur et à mesure de l'expansion. On essaye de remonter aussi près que possible du Big Bang, pour essayer de retracer l'histoire de l'univers. On a la chance d'avoir une machine à remonter le temps, qui est la vitesse finie de la propagation de la lumière, hein, 300 000 km par seconde. Et donc, plus un objet est loin, plus la lumière, l'information qui vient de cet objet, va mettre du temps à nous parvenir. Je vous regarde, il y a des nanosecondes entre le moment où la lumière vient à moi, mais la première étoile, la lumière met 4 ans pour venir de cette première étoile la plus proche de nous. Si l'étoile elle explose aujourd'hui, on le saura dans 4 ans. La première galaxie, c'est la galaxie d'Andromède, c'est 1 million d'années-lumière. On est dans une logique d'aller dans des strates de temps très reculées, ça veut dire très tôt dans la vie de l'univers, parce que l'horloge elle s'est déclenchée et aujourd'hui elle en est à 13,8 milliards d'années. Hein. Le Big Bang, on a daté l'explosion. Ça, c'est une des grandes réussites du modèle du Big Bang. Avec Euclide, on va être à 10 milliards d'années, mais surtout le ciel. Cette époque où on pense que c'est là où l'énergie noire, l'énergie sombre, a commencé à faire son effet. C'est pour ça qu'on ne veut pas remonter plus loin. On va aller sonder l'époque où l'énergie noire s'est mise en route. On fait de l'archéologie astrophysique. l'univers, il y a des galaxies, il y a des amas de galaxies, il y a des filaments de galaxies, c'est structuré tout ça, un peu comme une éponge. Et toute cette structure, en fait, elle est née à partir du Big Bang, et elle s'est façonnée sous l'action de la gravité. Et donc, sous l'action de la gravité, il y a un certain nombre de condensations de matière qui sont apparues au cours de cette évolution. Donc quand on fait la cartographie, on regarde ces condensations de matière, on regarde comment les galaxies sont condensées, et à partir de ces mesures, on arrive à peser l'univers d'une part, et d'autre part à mesurer ce qu'on appelle le taux de croissance des structures, à quelle vitesse les structures vont s'assembler, à quelle vitesse la masse va s'accumuler à certains endroits de l'univers. Et ça, c'est piloté essentiellement par la gravité. Une des choses que l'on ne sait pas, c'est si cette énergie noire, c'est vraiment de l'énergie qui correspondrait à un composant qu'on n'a pas encore identifié, ou si c'est nos équations qui sont encore incomplètes. La précision des mesures qui sont faites dans de petits volumes d'univers ne permet pas de comprendre l'origine de la matière noire ou de l'énergie noire. Quelle zone du ciel il faut observer pour avoir une précision suffisante. C'est ce qu'on a fait pour dimensionner Euclide, et c'est là qu'on est tombé sur le chiffre magique, entre guillemets, de 15 000 degrés carrés. Un degré carré, donc, c'est une surface de la sphère céleste. La sphère céleste a 40 000 degrés carrés. Pour observer 15 000 degrés carrés, quel type de télescope il faut ? On ne peut pas faire ça au sol parce que les objets sont trop faibles, il faut aller dans l'espace, il faut observer dans l'infrarouge, parce que le décalage de la lumière avec l'expansion fait que les longueurs d'onde qui sont émises, longueurs d'onde dans le domaine visible, sont reçues dans le domaine infrarouge. Qu'il soit capable de mesurer des distances, donc il faut ce qu'on appelle un spectromètre, un spectrographe. Voilà. Cette mission, elle a été. On passe par plusieurs phases. Une première phase de conceptualisation où justement on commence à faire des croquis. Alors il faut faire des images, il faut être dans l'infrarouge, un télescope suffisamment grand pour observer les objets jusqu'à 10 milliards d'années dans le passé. Voilà, donc ça c'est la genèse d'Euclide. Et donc on a commencé à faire des études. Ça devait être en 2007-2008. Voilà, là, ça a été proposé à l'ESA et puis ça a été accepté en 2011. Les échelles de temps pour un projet spatial, c'est vraiment long. Donc, études préliminaires, 3-4 ans, sélection 2011, lancement 2022, 6 ans ou 7 ans de mission. Donc, vous voyez qu'on part de typiquement 2007 et on va arriver à 2030. Ouais. Je parlais d'aventure humaine, donc c'est une aventure humaine, ça représente la demi-vie d'un chercheur, la moitié d'une carrière d'un chercheur sur un projet. Il y a une très forte interaction entre les équipes scientifiques et les équipes techniques. Les choses se formalisent donc par ce qu'on appelle des spécifications. Les scientifiques arrivent à un document de spécification qui dit voilà, on a besoin de telle sensibilité, tel type de domaine de longueur d'onde d'observation, et donc le lien continue à se faire pendant toute la durée du projet par ce qu'on appelle les performances. Et ces performances, elles doivent satisfaire aux spécifications qui ont été émises au départ. Et donc quand il y a une impossibilité qui se fait jour parce que techniquement tel truc a évolué de façon défavorable, on fait une itération et on s'assure qu'on trouve des compensations pour que la performance finale soit bien conforme aux spécifications initiales. Le satellite, c'est quoi ? Il y a une plateforme qui permet de contrôler tout ce qui est sur le satellite, mais qui permet aussi de communiquer avec la Terre, d'envoyer les données en particulier. Et donc il y a une plateforme qui est déjà assez volumineuse, plus le télescope qui vient dessus, plus les instruments, etc. Et donc là, c'est seulement chez les industriels que l'intégration finale se fera. Nous, ce qu'on fait ici, c'est la partie instrument. C'est-à-dire que l'ensemble de l'instrumentisme va être intégré complètement et testé complètement ici dans nos labos. We'll be right back. Il y a une période dans la vie de l'univers donc qui correspond à 10 milliards d'années, mais ça serait vraiment juste le commencement, ça s'est amplifié après ça, c'est-à-dire 7-8 milliards d'années. Donc c'est le moment où on a une accélération de l'expansion. Avant ça, l'expansion elle est beaucoup plus régulière. Ça c'est le résultat de l'explosion primordiale. Là, on est dans une logique où c'est plutôt la matière qui domine plutôt que l'énergie. Donc, ça correspond à deux phases dans l'évolution de l'univers. Une phase qui est d'évolution plus constante de l'expansion et puis une phase où l'expansion est plus accélérée. Tâche principale, c'est de m'assurer qu'on a bien toutes les ressources nécessaires pour mener le projet à bien. Les ressources intellectuelles au niveau des chercheurs, en particulier de s'assurer qu'on forme de jeunes chercheurs qui vont être capables d'exploiter la mission, hein, puisque là on est lancement 2022 plus 6 ou 7 ans, hein, donc c'est pas moi qui vais être là, hein, moi je serai à la retraite, hein, au milieu de l'exploitation, moi je serai à la retraite. Donc il y a des jeunes qu'on forme, pour être sûr qu'effectivement il y ait les capacités intellectuelles d'aller exploiter tout ce formidable jeu de données qui va être acquis par Euclid. Puis après il y a les ressources financières, s'assurer qu'on est en interaction donc avec nos financeurs, hein, qui sont les financeurs publics, hein, donc il y a les agences nationales comme le CNES, hein, c'est le Centre National d'Études Spatiales, qui est l'agence spatiale française, le CNRS, qui paye les salaires d'un certain nombre de gens, et puis voilà, il y a les universités, hein, qui sont impliquées. Il faut trouver les budgets, il faut s'assurer que tout ça se met en place, et puis voilà, que les ressources disponibles correspondent bien à ce qui est nécessaire pour que la mission se complète. On s'assure qu'on a toutes les briques en place pour que le jour où les données commencent à arriver, ben, on va faire tourner les machines et puis faire ces fameuses mesures qui sont nécessaires pour répondre aux questions. Je serai présent jusqu'aux deux tiers de l'exploitation de la mission. Donc, et c'est pour dire que voilà, il y a effectivement des échelles de temps qui dépassent l'échelle de temps de l'emploi d'un chercheur. Donc, il y en a d'autres qui partiront en retraite avant moi, qui ne verront pas la phase d'exploitation, enfin qui la verront à distance, quoi. Comme moi, on forme des jeunes chercheurs et donc on va laisser nos gènes, que les choses, on va passer le flambeau à des gens qu'on a formés. Donc c'est satisfaisant de se dire qu'on a contribué à une œuvre de la connaissance, même si au final on ne sera pas forcément directement impliqué dans les phases finales. Fait progresser la connaissance. On sait que le progrès des connaissances, c'est un facteur de progrès de l'humanité, hein, c'est un des fondements, hein. Si on ne progresse pas au niveau de la connaissance, l'humanité stagne. dans ce progrès de la connaissance, on s'appuie sur les progrès technologiques. On stimule des développements technologiques qui ensuite vont avoir des implications quasiment dans la vie de tous les jours. Les technologies spatiales qui sont développées, il y a des cascades qui se font vers l'aérospatiale, vers l'aviation. Voilà, au niveau des capteurs, des détecteurs, il y a maintenant toute une génération d'industriels qui font tous les capteurs qui vont dans les téléphones portables, hein, par exemple. Donc il y a toute une ramification entre la science fondamentale, la science appliquée, la technologie, qui est irriguée par une simple idée de faire progresser la connaissance. Les missions de physique fondamentale, d'astrophysique, qui ont besoin d'envoyer des grosses masses dans l'espace, étant limitées par les lanceurs, les fusées, on a besoin d'avoir des structures qui sont aussi peu massives que possible. Il y a toute une irrigation du domaine technologique qui est initiée par ce type de projet. C'est tout un cercle vertueux qu'il est important d'expliquer. Après, ça a des retours aussi vers le grand public, ça fait partie de nos fonctions. On se doit d'aller communiquer vers le grand public le résultat de nos recherches.
Euclide, le métier à tisser l'univers, donne la parole au personnel du CNRS, d'Aix-Marseille Université et du CNES, impliqués dans la réalisation du spectrophotomètre infrarouge grand champ, également appelé NISP, l'un des deux instruments embarqués de la mission spatiale Euclide de l'Agence spatiale européenne. Les chercheurs et ingénieurs que vous entendez ici travaillent principalement au laboratoire d'astrophysique de Marseille et au centre de physique des particules de Marseille. Cette série d'émissions a bénéficié du soutien du CNRS, d'Aix-Marseille Université, du CNES et du LabEx au CEVU. À suivre.
Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors, je regardais la voûte céleste. Et ouais, j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste.
Quand on fait des interventions dans les lycées ou dans les collèges, le retour qu'on a, là, c'est génial. Hein. Les gamins, ils sont vraiment bluffés par les questions qu'on se pose et comment on peut y répondre. Et, c'est super, quoi. On voit les gamins captivés, quoi.
Euclide.
On est tout petit.
On essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers. Donc quelque chose qui nous dépasse complètement.
Radio Grenouille.com.